Précédemment, dans L'homme qui ne faisait rien.
Personne ne savait d'où il venait, ni comment il était arrivé là. Mais il ne fait rien du tout, cet Onalin. Quel curieux individu, s'exclama un autre. Il rentrait, s'allongeait de nouveau sur le lit et contemplait le plafond d'un air réjoui, les mains croisées derrière la tête. Il en allait ainsi chaque jour que Dieu faisait. On aurait pu croire qu'il devait se marier le lendemain ou qu'il s'attendait à gagner au loto. Et comment un homme, avec une telle vie, pouvait-il être d'humeur si joyeuse? Mais il ne fait rien, rien de rien, s'étonnaient les uns. C'est un fou, estimaient les autres. Tout le village n'avait plus que cela en tête.
L'écriture est l'une des rares activités qui me donne le sentiment d'être rempli d'une force singulière et prodigieuse. Le reste du temps, je suis en général faible et avide de plaisir. Les psychiatres appellent ce genre de déséquilibre un syndrome maniaco-dépressif typique. Mais pour moi, c'est juste un terme médical vide de sens. En réalité, quand un être relativement faible s'est trouvé pendant un moment rempli par une force beaucoup plus grande que lui, qui se manifeste sous la forme d'un flux de vision et d'émotions exprimé par des mots, il est tout à fait normal qu'il plonge après cela, pendant un certain temps, dans une phase d'apathie. C'est une réaction de défense naturelle de l'organisme. Meïs Ensar. L'homme qui ne faisait rien. Deuxième épisode. Traduction Antoine Chalvin.
La situation devint particulièrement inquiétante lorsque les jeunes mariés, en s'adonnant dans leur chambre à coucher au plaisir de l'amour, au lieu de se soucier de leur partenaire, commencèrent à penser à l'homme de la maison verte, qui ne faisait rien, mais qui était pourtant plus heureux qu'eux. Il n'y eut bientôt plus qu'une seule personne dans le village de Karsna qui ne pensait pas à l'homme qui ne faisait rien. C'était l'homme qui ne faisait rien. Cela ne peut plus durer, s'exclama plus d'une fois tel ou tel solide villageois. Jetant sa clé anglaise dans un coin de son atelier, il se rendait le dos voûté et les yeux rouges, tel un taureau jusqu'à la maison verte, tambouriner rageusement contre la porte et crier qu'il était temps de mettre un terme à cette plaisanterie et de laisser les gens en paix. Mais lorsque l'homme qui ne faisait rien venait lui ouvrir la porte et le regarder en souriant, le villageois furieux ne pouvait rien faire d'autre que de grincer des dents avec une rage impuissante et il faisait demi-tour en jurant. Les habitants du village, le jour comme la nuit, n'eurent plus jamais de repos. Un paysan nommé Eldur laissait chaque jour son tracteur au bord du champ et courait jusqu'à la maison verte pour voir, ne serait-ce qu'un instant, l'homme qui regardait le plafond en souriant. Après l'avoir observé pendant quelques minutes, il se calmait et retournait à son travail. De nombreux insomniaques rôdaient la nuit autour de la maison verte et épiaient l'homme par les fenêtres pour savoir s'il était bien vrai qu'il ne faisait absolument rien. N'était-ce pas en réalité un voleur habile qui, sous le couvert de la nuit, allait commettre des cambriolages dans des bourgades éloignées? Car sinon, comment se procurait-il sa nourriture? Et l'homme était toujours à la maison. Certains visiteurs plus hardis n'hésitaient pas à entrer dans la pièce, car l'homme étrange ne verrouillait jamais sa porte. Au nombre de ces intrus figuraient des gens fort respectables. Ils s'asseyaient discrètement à côté du lit et se penchaient vers l'homme en se disant que, peut-être, il fredonnait quelque chose ou se parlait à lui-même, car il semblait difficile de croire qu'il puisse sourire ainsi sans raison. Mais aucun son ne sortait de sa bouche. Pas le moindre petit cri de souris. Un jour, en revenant de l'école, les deux filles jumelles du directeur de la scierie s'allongèrent à côté de lui pour voir si quelque secret n'était pas écrit au plafond ou peut-être une image peinte avec des couleurs claires. Elles ne virent rien d'autre que le plafond blanc. Mais elles se sentirent si bien allongée à côté de cet homme souriant, qu'elle ne se résolure à le quitter qu'une fois la nuit tombée. Bientôt, la Maison Verte devint un lieu où quantité de gens entraient et sortaient à tout instant, comme une sorte de club. Ils s'asseyaient par terre, autour de la maison, fumaient, devisaient de la marche du monde, buvaient, laissaient vagabonder leurs regards et discutaient avec animation de l'homme allongé à l'intérieur. Plusieurs groupes se formèrent. Certains défendaient le mode de vie du maître de maison en soutenant que chacun devait être l'artisan de son bonheur. D'autres critiquaient vertement cette vie de patachon qu'ils considéraient comme une offense pour les gens du village. Quand le moment arrivait pour l'homme d'arroser ses champignons et de manger, tous les spectateurs le regardaient pourtant avec une certaine considération. En l'observant, ils avaient même le sentiment que quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Certains jetaient des coups d'œil derrière eux, comme s'ils espéraient qu'au détour de la route allait surgir une voiture blanche avec une remorque pleine d'objets merveilleux ou quelque chose dans ce genre. Pendant que l'homme prenait son déjeuner, les filles du directeur de la scierie restaient assises à côté de lui. Une expression réjouie sur le visage et éloignait les importuns et les curieux. La vie à Karsna se désorganisa de plus en plus. Au bout d'un moment, plusieurs habitants du village refusèrent de s'éloigner de la Maison Verte en affirmant qu'ils se sentaient bien à cet endroit et qu'ils aimaient rester là, ne rien faire, en compagnie de l'homme étrange. Comme il y avait parmi eux des femmes et des hommes mariés, des conjoints jaloux arrivaient parfois sur les lieux et frappaient sans crier gare l'homme qui ne faisait rien. Celui-ci se mettait alors à pleurer comme un enfant. Après quoi, les filles du directeur de la scierie, qui depuis quelque temps n'allaient même plus à l'école, attaquaient l'agresseur à coups d'ongles et de dents et l'obligeaient à s'enfuir. Il fallut réunir le conseil du village, car les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il y avait incontestablement un mystère derrière tout cela. Cet homme devait bien acheter sa nourriture en échange de quelque chose et se procurer quelque part des vêtements neufs et propres, car il était toujours vêtu de propre. Il devait donc avoir de l'argent. Celui-ci était-il caché dans la maison ou bien l'homme était-il un magicien? Les magiciens n'existent pas, en tout cas plus aujourd'hui, déclara l'instituteur Paulson. Et comme il avait de l'instruction, il fallut bien le croire. Après de longs débats, on décida de mettre en place une surveillance permanente pour découvrir comment l'homme se procurait sa nourriture et ses vêtements. Chaque tour de garde fut assuré par trois villageois munis de gourdins qui étaient relevés toutes les 24 heures par un autre groupe de trois. Dès la nuit suivante, peu avant l'aube, à l'heure où le village était le plus silencieux, on vit arriver en provenance de Mustla un garçon à vélo. Il s'arrêta près de la Maison Verte, prit délicatement un paquet sur son porte-bagages et s'apprêtait à filer à l'intérieur lorsque les hommes sortirent de leur cachette, bondirent en travers de son chemin et lui demandèrent sous la menace d'une correction d'où il venait et ce qu'il y avait dans son paquet. Le garçon, apeuré, craignant d'être battu, finit par révéler tout ce qu'on lui demandait. Le lendemain soir, le conseil de village se réunit à nouveau dans la maison commune pour annoncer à la population les dernières nouvelles qui étaient proprement stupéfiantes.
C'était « L'homme qui ne faisait rien » de Mélisse Ensart, deuxième épisode. Texte lu par Christian Garraud. Musique, Elisa Di Riccio. Montage, Michael Blanchet. Parution en français dans la revue Brève, anthologie permanente de la nouvelle, février 2014.